tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
T'as l'air nul.
Sois pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience.
Donc là, t'es en train de... T'es en train d'enregistrer.
On n'entend rien du tout.
Mayday. Si, Mayday. Écoute bien.
Mayday. Veuillez prêter la plus grande attention.
Au cas où, s'il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio.
Mon message suivant.
Tu décrirais ça comment, toi, Mayday?
Une émission un peu kaléidoscopique.
À quoi ça sert? C'est quoi le but?
Ça résonne dans tous les sens, avec des couleurs.
Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons.
Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient totalement confus.
Et quand finit le scénario?
Tous les mercredis. Et vous, tous les mercredis.
Mayday, c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Canu.
Ah, je me suis emmêlée, j'ai fait trop de E, je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une histoire.
Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens.
Mayday, saison 7.
Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça.
J'ai mal aux pieds.
Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. Où elle est allée, où elle va. J'ai porté des tas de chaussures. Je parie que si j'y pense très fort, je pourrais me souvenir de ma première paire de chaussures.
C'était quoi tes premières chaussures, toi?
Mes premières chaussures? Mes premières chaussures qui m'ont marqué, hein.
Oui, oui, oui.
Que j'ai vraiment choisi. Bah, c'était des Reebok blanches en tissu et le logo était vert. J'étais en CM2, j'en étais trop fier.
Reebok.
Enfin, perso, moi je me souviens d'avoir voulu et d'avoir eu des Vans noirs de skater pour mon entrée au collège.
Pas mal.
On les défonçait tout le temps, les Vans de skate, sur le grip de la planche de skate.
Ah bon?
Et après, je sais pas si t'as connu ça, on mettait de la Shugu pour qu'elle dure plus longtemps.
Ah non.
Moi je connais pas.
Non, moi au contraire je les ai gardés plutôt longtemps en fait. Bon, en fait je faisais pas vraiment de skate.
T'es un poseur?
Non, je sais pas, j'en faisais pas quoi.
Moi non plus. Hein.
Mais bon, par rapport à Forrest Gump là qu'on vient d'entendre, lui en tout cas ses chaussures elles lui servaient pas à faire du skate mais ça lui permettait de courir super vite, non?
C'était des Cortez.
Ah bon? Mais c'était pas des Reebok t'as dit?
Non, mais Forrest Gump, il avait des Nike Cortez.
Ah oui! Ah bah ouais. oui, bien
pour
sûr.
Pour la vitesse, enfin c'est pas nouveau. Déjà Hermès, le dieu grec, il avait des sandales ailées qui lui permettaient de voler.
Attends,
et d'aller
mais
super vite.
Oui, mais c'est pas les chaussures qui te permettent d'aller vite. Ouais. Par exemple, l'athlète éthiopien Adebebi Kilia. Bon bah lui, il arrivait pas à mettre des chaussures sans avoir mal. Du coup, au JO de Rome en 1960, bah, il a couru pieds nus, il a gagné le marathon. Et c'est devenu vraiment un héros populaire après ça.
Mmh. Les chaussures, ça sert aussi à faire passer des messages.
Tu penses à quoi là, Luigi?
Bah, par exemple, aux pyramides de chaussures pour visibiliser les victimes des mines antipersonnelles.
Puis il y a les chaussures qui se mettent là avec les lacets sur les fils électriques pour signaler les fours de drogue ou les territoires de gangs.
Il y a les chaussures peintes en rouge en novembre 2024 devant le tribunal de Lyon pour visibiliser le nombre de victimes de féminicides. Encore 122 l'an dernier.
Il y a la chaussure là, envoyée par le journaliste irakien Al-Zaïdi dans de
Bush
ah ouais. Lors d'une conférence de presse pour protester contre la guerre d'Irak en 2003.
Ouais. D'ailleurs, en France, il y a une ville mythique pour l'histoire de la chaussure. C'est Romans-sur-Isère. C'est une ville de 30 000 habitants dans la Drôme. Encore aujourd'hui, on y trouve des traces de cette aventure capitaliste et ouvrière. Et cet été, j'ai enfilé des bons souliers et j'y suis allé, m'y balader, micro à la main.
Voilà, transition aux chausse-pieds.
Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la spécialité de Romans pour vous?
Les chaussures, la pogne.
D'abord c'est la chaussure, ensuite la nourriture, c'est la pogne et les ravioles.
Est-ce que il y a encore des producteurs de chaussures ici?
Il y en a peut-être un ou deux, trois, quatre. Mais pas uniquement des chaussures de mode, il y en a qui font des chaussures spécialisées. Il y en a, voilà, des sandales, des machins comme ça.
Est-ce que vous pourriez me décrire vos chaussures?
Là, c'est des bastiquettes merdiques que je mets parce que je peux pas marcher autrement. Voilà.
Ah bah, le style tropézienne. Des petites espadrilles très légères et tout cuir pour pas trop transpirer. Le cuir était dans le temps beaucoup utilisé. Il y avait 3 tanneries, maintenant il ne reste plus qu'une, hélas. C'était dû justement à toutes les chaussures. Ils avaient tout sur place, quoi. Il n'y avait pas besoin d'aller se fournir dans d'autres régions ou d'autres pays comme aujourd'hui. J'ai des chaussures de roman. Et toujours, je me chausse avec des chaussures du coin, quoi. C'est des chaussures qui sont produites ici, à la Cité de la Chaussure, là, à l'Office du Tourisme. Ils ont leurs ateliers, vous pouvez les visiter sans problème.
Je vous souhaite la bienvenue à la Cité de la Chaussure. Je suis Cécile et je vais vous accompagner sur la découverte de ce lieu. Alors, en fait, il y a de la chaussure à roman parce qu'un jour, il y a eu du travail du cuir. Hein, c'est-à-dire, dès le 15e siècle, on a des tanneries, des mégisseries ici parce que bien, vous avez les bovins du Vercors qui donnent leur peau et vous avez les ovins, les caprins de la plaine, du Divois et tout ça qui donnent leur peau pour les mégisseries. Et puis, il y a le chêne, le châtaignier, hein, dont l'écorce est un tanin naturel pour travailler, une peau. Et puis, il y a de l'eau juste à côté de l'abattoir. Ça s'appelait la rivière, cette étape-là. On dégraissait la peau, on enlevait les poils et tout ça. C'était vraiment positionné sur ce bas de ville. Et puis après, ce cuir était travaillé de façon artisanale, totalement artisanale, jusqu'à 1850 à peu près.
La première révolution dans cette activité, elle va apparaître avec un certain Barthélemy Guillaume qui, en 1854, va développer une machine qui va permettre de clouter les tiges en cuir sur les semelles en bois. Donc, c'est les fameuses galoches.
Sandrine Ruineau, responsable du service des publics au musée de la chaussure de Romans.
Et du coup, on n'est plus obligé de coudre, ce qui est une opération assez contraignante. On va accélérer finalement la cadence de production. Et donc, la chaussure va devenir une chaussure solide et de production un peu plus soutenue. La vraie révolution, à mon sens, c'est plutôt 1900. C'est l'apport d'un certain Joseph Henestrier qui, lui, va décider de faire construire une grande usine. Il va aller chercher des machines aux États-Unis et il va développer ce qu'on appelle le fameux cousu goudieur. Donc, on revient en fait à une chaussure cousue, mais qui est hautement qualitatif et hautement robuste.
Ça permet déjà d'accélérer complètement les processus de fabrication. Il y a l'électricité en plus qui va apporter la puissance aux machines. Et puis il y a le train qui arrive en gare de Romans aussi, hein, vers la fin du 19e siècle. Et tout ça va permettre le développement de toute cette industrie-là qui va devenir très très prospère. Hein. Il y a quand même eu déjà des grosses structures hein, dès le début du XXe siècle, parce que chez Fenestrier, hein, qui avait créé la marque Unique, c'était plutôt de la chaussure pour hommes, il y avait déjà de nombreux ouvrières. Hein. Mais il y avait quand même une tradition de ce qu'on appelait les galères à Romans, c'est-à-dire des ouvriers qui avaient une maison qui était un petit peu grande, et puis ils se réunissaient à plusieurs ouvriers comme ça, dans une maison, et travaillaient en sous-traitance.
Et c'est vraiment à partir de ce début du XXe siècle que Romans va vraiment s'imposer comme la capitale économique de la chaussure. Il faut savoir que globalement, il y a environ 15% de la production de chaussures françaises vient de la cité romanaise. Et cette histoire de chaussures, c'est avant tout une histoire d'hommes. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des grandes familles, des grands noms qui vont s'illustrer et qui vont porter cette économie. On pense forcément à la famille Jourdan, qui fonde une première entreprise dans les années 20. On pense aussi aux familles Kélian, qui vont vraiment porter le nom de Romans sur l'international.
Kélian était arrivé avec un très très beau savoir-faire. Les parents avaient fui le génocide arménien. Ils sont arrivés dans les années 1920 à peu près sur Romans avec un savoir-faire ancestral anatolien qui était le tressage du cuir de chèvre. Et du coup, eh bien, les femmes de la Drôme des Collines recevaient les ballots de lanière de cuir de chèvre, hein, puisque Gérard Kélian avait inventé une machine qui permettait de faire un lien très très long. Et les dames tressaient à la maison. Mais c'est vrai quand même que avec l'industrie du luxe, on est passé quand même sur vraiment un mode industriel, hein, qu'il y avait beaucoup moins avant. 1949, c'est 195 ateliers de fabrication de chaussures. Et à l'époque, la population en 1949, c'était un petit peu plus de 20 000 habitants. Donc c'était en fait colossal. Et puis surtout, on avait tout à disposition. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une autonomie complète là-dessus. On fabriquait tout. Tout le reste, hein, les talons, les cols, les semelles, les formes, les premières de montage, tout, le cuir. Donc on était vraiment sur une mono-industrie. Hein.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut comparer ce qui se passe à Romans à un district industriel tel qu'on peut l'avoir à Oyonnax, tel qu'on peut l'avoir aussi beaucoup dans le nord d'Italie. C'est pas qu'une filière, c'est vraiment un écosystème. Parce que certes, on produit les cuirs, on produit de la chaussure, mais il y a un tas en fait d'entreprises périphériques aussi qui vont apparaître, des fabricants de boîtes en carton, des boîtes de cirage comme le Cygne Noir aussi, qui est une entreprise locale. On a aussi des entreprises qui vont fabriquer des formes en bois et ensuite des formes en plastique et des semelles en plastique. Donc c'est vrai que l'activité chaussure, elle va aussi générer en fait une économie annexe extrêmement importante. Pour les entreprises de chaussures, on peut parler peut-être 5000 personnes qui travaillent en fait pour le compte d'atelier. Parce qu'on pense à ces grosses entreprises, Jourdan, Kélian, pour lesquelles effectivement on compte un nombre de collaborateurs extrêmement important. Mais autour de ça, on a aussi beaucoup d'ateliers familiaux.
Petit, quand j'allais chez mes grands-parents dans la Drôme, peut-être deux ou trois fois par an, il y avait au sous-sol de la maison les machines de papy entreposées dans un coin. Elles dormaient là depuis plusieurs décennies. C'est que dans les années 60, mes grands-parents, des immigrés italiens, ont ouvert un petit atelier de faction de chaussures à Bourg-de-Péage, le bourg situé en face de Romans, sur l'autre rive de la rivière. Ma grand-mère s'était déjà employée comme piqueuse dans une usine de la ville. Avec son mari et un cousin, ils décidèrent de se mettre à leur compte. Ils avaient décoté un contrat avec l'entreprise Carville, une marque parisienne installée rue Royale, qui jusqu'alors travaillait surtout avec des sous-traitants du nord de l'Italie. Dans l'atelier qu'ils avaient construit eux-mêmes et à côté duquel ils habitaient, ils fabriquèrent de 1963 à 1969 des centaines de paires de chaussures haut de gamme. Je me rappelle mon grand-père me disant qu'à l'époque, il avait fait les bottes de Sheila. Lui, il s'occupait du fraisage. Une fois la semelle assemblée à la tige, il la fraisait, c'est-à-dire qu'il retirait les parties de la semelle en trop. L'aventure fut de courte durée. Après 6 ans d'activité, les boîtes de chaussures furent remisées à la cave avec les machines. Ensuite, mon grand-père travailla comme peintre en bâtiment. Quant à ma grand-mère, elle cousait à la maison des chaussons pour bébé, avant de reprendre son poste de piqueuse dans l'usine qu'il employait plus jeune. Mais là aussi, quelques années plus tard, alors que ses yeux fatigués, le travail vint à manquer. C'était la fin des années 70, le début des années 80, et les usines de chaussures commençaient à fermer un peu partout, à Romans et autour de la ville. Il fallut encore 10 ou 15 ans pour que les derniers bastions industriels mettent la clé sous la porte. Au tout début des années 2000, avec mon frère, on a rencontré à Romans ou à Bourg-de-Péage, je ne sais plus, un jeune skateur qui, avec ses potes, avait bricolé un skatepark dans une ancienne fabrique. Discrètement, on était entré dans la friche industrielle et pendant une grosse heure, on avait exécuté maladroitement nos tricks. Ça s'est fini avec l'arrivée musclée d'un agent de sécurité et de son chien allemand. On s'est vite carapaté. L'ami nous a dit que des spots comme celui-ci, il y en avait pas mal à Romans. Je ne sais pas s'il savait que ces friches nombreuses témoignaient de l'effondrement de la mono-industrie romanaise autour de la chaussure, de l'explosion du chômage
et de la misère sociale sont corollaires. Moi, en tout cas, à l'époque, je l'ignorais.
Jusque dans les années 80, on avait quasiment une personne sur deux qui était en lien plus ou moins étroit avec la chaussure dans les actifs. C'était énorme, énorme, énorme. C'était vraiment une mono-industrie. C'est tout le problème de ces villes qui vivaient sur des mono-industries. Quand ça s'effondre, eh bien, c'est un cataclysme. Parce qu'on n'est pas en capacité, vous voyez, économique de résister à ça.
Donc ce qui fait vraiment l'ADN de la production romanaise, c'est des sagas familiales, c'est une économie de main-d'œuvre, et c'est ce qui explique aussi le déclin, à partir de la fin des années 70, de cette économie, à une époque en fait où la production va être complètement mondialisée, où effectivement les échanges internationaux vont faire assez rapidement comprendre aux grands groupes qui vont racheter ces entreprises au décès ou à la retraite des pères fondateurs, qu'il est finalement beaucoup plus intéressant financièrement d'aller produire à l'étranger.
Je m'appelle Geneviève, j'ai un petit peu plus de 70 ans, je suis à la retraite et j'en profite bien, surtout là dans les rues de Romans quand il fait beau. Aujourd'hui il y a le marché, c'est magnifique. Voilà.
Est-ce que vous êtes romanaise ?
Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu l'époque où il y avait encore des producteurs de chaussures à Romans en quantité ?
Ah oui, ça c'était extraordinaire. Fallait pas se trouver dans les rues à midi parce que tout le monde était en vélo à la course. La sortie des usines, l'entrée des usines, c'était énorme quoi. Hein. Je sais pas, il devait y avoir entre 5 et 10 chausseurs, peut-être même plus hein, des usines. Ah oui, oui, il y en avait beaucoup.
Elles étaient en ville ces usines ?
Tout à fait. Vous en aviez une chez Jourdan, juste en bas. Il y en avait partout, un petit peu partout, dispatchés dans la ville, dans le centre-ville. J'avais une dizaine d'années. C'était la tendre enfance. Il y avait même des chaussures tressées. Les femmes à la campagne, l'hiver, prenaient du travail à domicile qui était fourni par la chaussure. Il y avait du collage, du tressage. Ça leur arrondissait les fins de mois, quoi. Puis ça leur a permis d'avoir après une retraite.
Et alors, est-ce que vous vous rappelez de la période où tout ceci s'est progressivement arrêté ? Comment ça s'est passé ?
Ah, ça a commencé début des années 70, puis ensuite il y a eu le problème du marché extérieur, tout rapporté de Chine, donc ça a fait beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup. Malgré tout, il y en a quand même quelques-uns, des chausseurs qui persistent, mais je pense qu'ils ont vraiment des difficultés, hein.
Et là, juste à côté, il y a un grand centre de magasins, j'ai vu. Est-ce qu'il y a un lien avec l'histoire de la chaussure là-dedans ?
Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de chaussures de Romans là-dedans. C'est que des grandes marques, c'est tout. Hein. Je vais vous dire, j'habite en face, je n'y vais jamais. Je fais travailler les petits commerçants d'ici le plus possible, quoi. Hein. Au moins, c'est pas trop cher et ils ont de la qualité aussi bonne que ce qu'on trouve sur Marc Avenue.
Moi, ma grand-mère vit encore à Romans, donc je viens ici depuis que je suis tout petit. Et j'ai l'impression, là, je remontais la côte Jacquemart, que tout ferme.
Ah, mais tout ferme, tout ferme. Puis avec les travaux, là, c'est catastrophique. Hein. Ouais. C'est dommage, Romans sera très joli. C'est magnifique quand on est à pied, mais si on a une voiture, c'est l'horreur. Hein. C'est l'horreur. Puis alors, partout où on passe, il y a des travaux, quoi. Hein. C'est vraiment tout en travaux, tout en chantier. Il est temps que ça s'arrête.
J'ai toujours connu Romans en travaux. Il y a des villes comme ça où tous les ans on creuse des trous dans la chaussée pour les reboucher. Et peu importe finalement de savoir à quoi ça sert, ça occupe. Ce qui est sûr, c'est que depuis bientôt un an, les travaux à Romans ont pris une autre dimension. L'avenue principale est totalement réaménagée et l'immense parking central de quasiment 500 places sera bientôt rendu à la vie piétonne. Un grand parc et ses promenades arborées doivent être construits ici, au grand dam de nombreux commerçants. Car à Romans, comme dans de nombreuses villes moyennes, on se déplace avant tout en bagnole. Donc des places de parking en moins, ce sont des visiteurs en moins tous les jours dans le centre-ville. Et depuis la fermeture des ateliers et des usines de chaussures, le joli centre-ville de Romans s'est déjà considérablement désertifié. Les vitrines abandonnées sont légion et les petits magasins continuent de fermer.
Dans les périphéries de l'agglomération, au contraire, les zones pavillonnaires s'étalent à n'en plus finir sur les terres fertiles, tout comme les zones commerciales et industrielles qui fleurissent, nouvelles, chaque été, au bord des champs de lavande. S'il fallait une image de la France moche, décrite dans le célèbre article de Télérama, ça pourrait être cette périphérie romanaise, pourtant situé dans ce magnifique paysage, coincé entre la rivière de l'Isère et le Vercors qui dessine au loin l'horizon. Grandes surfaces et autres magasins en tôle jouxtent des bureaux d'entreprises récents et des sites industriels divers et variés. On y trouve par exemple une entreprise cardinale pour l'industrie nucléaire française, l'usine Framatome, qu'on appelle localement la CERCA, installée ici depuis la fin des années 70. On y fabrique des combustibles nucléaires qui sont consommés dans les centrales françaises. C'est d'ailleurs l'un des principaux employeurs de la ville, avec près de 800 salariés.
Hors du travail, on en a manqué à Romans, territoire de désindustrialisation massive. Lorsque les ateliers, les usines de chaussures et tous les sous-traitants de cette mono-industrie ont mis la clé sous la porte, au tournant des années 80-90, il a bien fallu, pour les ouvriers, déménager ou se reconvertir. C'est d'abord pour accompagner ces chômeurs que fut fondé le groupe Archer en 1987. Une entreprise tournée vers l'économie sociale et solidaire qui a œuvré dans de nombreuses branches de l'économie locale afin de la redynamiser. À la manette, on ne trouve pas de révolutionnaires, c'est sûr. Plutôt des entrepreneurs attachés, semble-t-il, à leur territoire. C'est ainsi que le groupe a racheté les machines emblématiques de l'entreprise Jourdan, spécialisée autrefois dans la chaussure de luxe. En 2019, dans les anciens locaux du Prix Unique, situés le long de ce boulevard de Romans aujourd'hui en travaux, le groupe a ouvert la Cité de la Chaussure. Des magasins où sont vendues des chaussures fabriquées dans l'atelier situé juste à côté.
C'est des chaussures ouvertes, des espèces de sandales, mais avec une compense. Un peu talon, quoi. J'ai eu des chaussures de roman, mais j'en achète surtout en grande surface. Quoi.
Et si on voulait acheter des chaussures de roman, on irait où ?
À la Cité de la Chaussure. Quelle question ! C'est intéressant parce qu'en plus, il y a une visite guidée où on vous explique tout.
Entrez, je vous en prie. Alors, eh bien, bienvenue hein, du côté des vrais professionnels de ce lieu. On vous souhaite la bienvenue chez nous. Venez, je vous en prie. Alors, voilà une presse hydraulique. Et cette presse hydraulique, eh bien, c'est une belle grand-mère qui s'appelle encore Charles Jourdan. Hein, c'est encore écrit dessus. Donc, cette machine, eh bien, voilà, ça fait partie des machines qu'on n'a pas laissées partir. Vous entendez un pssst constant, en fait. On a un compresseur ici. On travaille avec de l'air comprimé partout. Donc, on va utiliser cette puissance de l'air comprimé. Il y a toujours une double commande hein, sur une presse hydraulique. On va régler les kilos de pression. Et on va utiliser eh bien, ce qu'on appelle des emporte-pièces. Vous voyez ? Ça, c'est assez tranchant. Je ne vous les fais pas toucher hein, parce que ça coupe fort. Ce sont encore des emporte-pièces qui sont faits à Romans. On a encore ce savoir-faire-là. Cette partie-là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une claque. La partie avant de la chaussure. Ici, vous avez les quartiers. Donc, quartier intérieur pied gauche et quartier extérieur pied gauche. Et si vous regardez bien, sur cette chaussure qui est une chaussure basse, c'est vraiment un Richelieu classique, traditionnel. Vous avez vu que le quartier intérieur, il est un petit peu plus haut que le quartier extérieur, pour la malléole. La malléole intérieure, elle est effectivement, chez tout le monde, plus haute que la malléole extérieure. En fait, un Richelieu comme ça, qui est quand même assez basique, c'est déjà 13 pièces. Et les emporte-pièces, ils ont des tailles. Donc il faut que vous ayez les séries, par exemple, du 35 au 42 sur un Richelieu femme. Hein, il faut penser qu'il y a le Richelieu homme, le derby, la bottine, la bousse, la sandale, etc., etc. Ça fait des belles collections. Et puis surtout, vous voyez la taille du billot. Hein. Si on doit approvisionner tout le monde pour travailler, c'est un peu lent. Alors quitte à faire un investissement, on n'a pas fait semblant. On va aller rejoindre Nadia à la machine numérique. Vous allez voir. Venez voir.
Merci beaucoup.
Vous avez vu, hein, les emporte-pièces, en fait, là, ils sont sous forme de lumière. Nadia, elle les a en mémoire dans le disque dur de l'ordinateur. Elle va les projeter grâce au vidéoprojecteur. ça se reflète dans le miroir. Et puis après, eh bien, elle va optimiser la découpe pour avoir eh bien, le moins de déchets possible. Une fois qu'elle a tout bien positionné, elle valide et ça veut dire que la machine est programmée. Et en fait, eh bien, la tête de lecture va découper avec une lame. Ça n'est pas un laser. En fait, le laser, ça rend le cuir hautement toxique. Hein, comme ça le brûle, ça le rend toxique. Donc en fait, eh bien, cette petite lame, elle a un côté assez symbolique. C'est le tranché de notre petit cordonnier du XVIe siècle. Moi, j'aime bien retrouver un peu ces petits clins d'œil. Et puis, au milieu, vous avez un stylo qui va pouvoir mettre des points de repère. Et dans le dernier boîtier que vous voyez, il y a comme une poinçonneuse qui va faire les pré-trous des lacets. Donc là, en l'occurrence, eh bien, sur cette table, vous faites 5 paires d'un coup. Évidemment, ça n'a plus rien à voir en termes de rapidité de production. Hein, par contre, c'est encore l'œil de Nadia qui fait la différence sur le fait de bien repérer les bonnes zones et d'optimiser tout ça. Ces dossiers, ces fichiers de forme, elle les a dans le disque dur de l'ordinateur, elle va les sélectionner. En fait, pied droit, pied gauche, la bonne taille, la bonne pièce, etc., etc.
Trip across the Western Sea, the Western Sea, Western Sea. I would give up my last means, my last means. And it calls me 'cause I really must, really must, I really must. When will my ship take to sea? I need to go to Napoli, where dreams have a sweet bouquet. That's where I will live someday.
Je m'appelle Rebecca Manzoni et j'écoute Mayday tous les mercredis à 18h sur Radio Canu.
I could cross your shitty Western Sea as a sponsor of flat screen TV. Wouldn't matter what shape or size, it even have a price. Nothing left to stem the tide, make it faster to the other side. The products are allowed, allowed to flee and make it cross the Western Sea.
The Western Sea.
As a promised supplier, assistant denier, rejection dispatcher, execution contractor. Come hand in hand with me.
Moi, quand j'entends parler chaussures et usines, ça me fait penser direct au sabotage.
Oui.
Mais si, vous savez, mettre des sabots dans les machines pour les faire dérailler, quoi. Si, ça me rappelle une citation de l'historien Dominique Pinsol. Ça vous parle, non?
Ouais, ouais.
Je sais pas,
je vois.
J'ai noté quelque part. Attendez, juste que je la retrouve.
Ah, donc tu ramènes tes citations.
Ouais, attends. Ah, voilà, c'est ça. Il dit le sabotage, c'est une matrice de tout un tas de pratiques qui vont du simple ralentissement du travail jusqu'à des formes plus destructrices de dégradation des équipements sans les détruire. C'est lutter tout en travaillant, sans avoir à faire grève, sans s'exposer à la perte de revenus et sans s'exposer à la répression patronale, mais aussi étatique. On le fait en loose day, clandestinement.
Tago avec ses gros sabots.
Bon.
Non, ça va. Et, d'ailleurs, vous avez lu le gang de la clé à molette, là ? Vous voyez ce livre avec le groupe de cinquantenaires qui sabotent les chantiers dans le Colorado pour préserver la nature, t'as lu ça?
L'auteur, Edouard Abbé, c'est un gros faf.
Ah mais non.
Merci.
Ah mais non, mais merde, mais moi j'avais bien aimé son bouquin.
Bah il est contre l'immigration, c'est un gros sexiste, un partisan des armes à feu.
Ah bon
pas.
Ouais, des camarades en plus qu'il m'avait conseillé.
Bah, ils sont un peu datés tes camarades, ce qui est plus récent comme ref. Comment saboter un pipeline d'Andreas Malm.
Ouais, enfin il n'explique pas du tout comment faire dans son bouquin, c'est racoleur ce titre.
Ouais, ok, bon, ouais, c'est vrai. Mais sinon, il y a le Lyonnais, là, Victor Cachard. Lui, il a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps. C'est une histoire en deux tomes du sabotage.
Mmh. Ah, il y a aussi ce film-là qui était génial, Woman at War de Benedict Erlingson. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'histoire d'une meuf qui... Non ? Qui sabote des lignes à haute tension en Islande.
Ouais.
Franchement, elle est trop
excellent.
Stylée. Ouais, ouais. Elle utilise un arc pour faire sauter le réseau. Mmh. J'ai adoré, la réal est super.
Bon, ça c'est la fiction, mais entre les sabotages de chantiers NGE contre l'autoroute A69 Toulouse-Castres, l'énorme usine Tesla en Allemagne en mars dernier, elle a été mise KO l'usine.
Beau geste.
Et puis je sais pas, les lignes de train, je sais pas, vous vous souvenez l'année dernière là, juste avant les JO, la veille de la cérémonie d'ouverture, boum, la ligne de train, toute la France bloquée.
Très très beau.
Bah, franchement, niveau sabotage, il y a des héritiers et des héritières.
Mais non, c'est vrai.
Après, excusez-moi, mais le truc du sabot dans la machine, c'est une légende, non?
Je sais pas, moi.
Tu crois?
Ben, il me semble, le truc ludiste là pour se révolter contre l'apparition des machines, ouais, il me semble. Enfin, je crois que ça vient de l'argot. Saboter, ça veut dire bâcler son travail. Ça a été popularisé par Émile Pouget dans son livre Le Sabotage en 1911.
Je connais pas. Moi, en fait, sabot et usine, ça m'évoque plutôt la chanson des Peines Sardines. Hein.
Des quoi, sardines?
Des quoi?
Des quoi, sardines?
Les sardinières, tu sais, les Peines Sardines de.
Attends,
les sardinières de Douarnenez, mais tu sais, toi, les
tu
Peines
vas chanter
Sardines.
Est-ce que tu vas chanter?
Mais bon, si tu veux, hein,
ah ouais, ouais.
La chanson qui raconte leur grande grève en 24.
Bah,
je vais te le donner, Luigi. Ça fait un truc du genre écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les Peines Sardines. Alors, ouais, voilà.
Ah, tu chantes bien.
Ouais, voilà, ça, comme ça. Bah, je peux te dire que les conditions de travail dans les ateliers, c'était.
Attends, mais surtout là, ce que tu chantes, c'est qu'elles étaient en sabots, les meufs, quoi. Ben... Ah mais en sabot. Enfin, je sais pas, heureusement qu'au niveau confort, on a un peu évolué quand même.
Oui, c'est sûr, bah, y a les crocs, quoi.
C'est très beau, très bel escalier. Donc au-dessus, on a notre fameuse chaussothèque, le centre de confrontation. Alors, on occupe de grands espaces dans ce grand couvent.
Alors la chaussothèque, vous nous rappelez ce que c'est?
C'est en fait une bibliothèque de chaussures, pour résumer. Donc c'est une vaste pièce dont on assure, où on assure la conservation de milliers de modèles de chaussures historiques, de chaussures de créateurs, de chaussures de bottiers. Et sur rendez-vous, dans le cadre de recherche, voilà, on peut l'ouvrir et présenter quelques pièces en fait aux personnes qui en font la demande. Alors, je suis Sandrine Ruino, je suis responsable du service des publics au musée de la chaussure de Romans. Ce qui est intéressant avec ce musée de la chaussure, et c'est vraiment ce qui fait sa particularité, c'est qu'on a effectivement cet ancrage local qui légitime sa présence à Romans, mais assez rapidement, on propose en fait d'ouvrir la focale, de présenter en fait la chaussure dans ce qu'elle a d'universel. Puisqu'en fait, on va présenter, là, on va voyager dans l'histoire, on va partir de l'Antiquité jusqu'au 19e, et puis on va aussi voyager parce qu'on a une très belle collection de chaussures historiques. On a une belle collection de chaussures qui viennent d'Asie, chaussures japonaises notamment, avec la chaussure samouraï, la patin de geisha. Bon, alors l'incontournable du musée, ça reste quand même cette première chaussure qui est la plus ancienne de notre collection, qui est une sandale qu'on va retrouver en Égypte antique. Alors bah, pour la décrire, c'est très simple, hein, puisqu'en fait, cette chaussure, c'est la tongue qu'on a tous au pied, là, cette période caniculaire. Bon, la seule différence, c'est qu'elle n'est pas issue d'un produit pétrochimique, mais elle est bien faite avec une ressource locale. Elle est faite en fibre de papyrus. Et ça, c'est assez génial de se dire qu'il y a déjà plus de 3500 ans, bah, les Égyptiens porter la même chaussure qu'on adore, nous, porter en plein été. Il faut savoir que globalement, dès l'Antiquité, toutes les formes de chaussures ont été inventées. La sandale, le soulier et la botte. Et en fonction des altitudes, en fonction du climat, on va adapter effectivement le port de telle ou telle chaussure. Une chose à noter également, c'est que la chaussure est plate. Le talon haut, lui, va arriver un petit peu plus tard, il va arriver à la Renaissance. Et puis, assez rapidement, on va se rendre compte que la chaussure, c'est avant tout un élément d'identification sociale. C'est vrai que s'il y a quelque chose qui résume bien la chaussure portée, ça serait, montre-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es. Voilà, pendant très longtemps, la chaussure, en tout cas la chaussure que nous présentons ici, c'est des chaussures qui sont là, en fait, pour montrer la position sociale de celui qui la porte. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans nos collections, on a forcément que des chaussures de dignitaires, de personnages importants, les chaussures de monsieur et madame tout le monde, étant des éléments tellement chers qu'elles étaient usées jusqu'à la corde et c'est des choses qui n'ont pas pu être conservées dans les musées. Prenons l'exemple par exemple du Moyen-Âge où on découvre une chaussure qui est assez extraordinaire qu'on appelle la poulaine. Alors c'est la chaussure des visiteurs, hein, pour les gens qui ont la référence. C'est une chaussure en cuir avec un bout exagérément pointu et là, rien qu'à la vision et la taille de la pointe, on va savoir en fait identifier dans quelle catégorie sociale est placée en fait la personne. Et un décret royal va d'ailleurs arrêter la taille de cette pointe. Donc plus on sera important dans la société, plus on sera autorisé à avoir une pointe exagérément longue. Bon, là, on est à la Renaissance. Et là, en termes de code, il se passe vraiment plein de choses très intéressantes. Bon, c'est surtout l'apparition du talon haut, la Renaissance. Le XVIe siècle, c'est vraiment la période où on va voir apparaître ce talon. Et un talon, ce qui est intéressant, qui est non genré. C'est-à-dire que les hommes portent du talon. Ça ne pose aucun problème. La notion de genre n'est pas du tout assignée à la chaussure. Les hommes finiront par abandonner le talon à peu près au 18e, mais pendant 200 ans, ils portent du talon, là encore, pour montrer qu'ils ne sont pas n'importe qui dans la société. Un talon qui est un petit peu différent de celui qu'on connaît. Donc, il faut imaginer un escarpin pointu avec un talon qui est positionné non pas dans le prolongement du talon, mais vraiment posé dans le milieu de la semelle de la chaussure. En fait, tant qu'on n'aura pas inventé ce qu'on appelle le cambrion, qui est une pièce métallique qu'on appose à l'intérieur de la semelle pour conférer de la solidité à la chaussure, on essaiera de trouver des stratagèmes pour que la chaussure ne s'écrase pas sous le poids de la personne qui la porte. D'où voilà, ces chaussures un peu étonnantes, donc le talon décalé, ou comme celle-ci, la chaussure à pont, donc vous pouvez imaginer aussi une chaussure à talon, avec carrément un patin qui relie le talon au devant de la chaussure et qui devait aussi, là encore, donner une démarche pas tellement agréable. Il faut pas perdre de vue qu'on n'est pas dans la grande mobilité, hein. Aujourd'hui, hommes, femmes, on trotte, on circule. Là, on est plutôt dans la représentation, ce qui explique aussi l'inconfort de ces chaussures. Parlant d'inconfort, on a aussi des chaussures très surprenantes. Ce sont des chaussures qu'on va retrouver beaucoup dans la péninsule ibérique ou à Venise, en Italie. Donc, il faut imaginer des chaussures qui sont perchées comme sur des échasses qui peuvent mesurer plus de 50 cm de hauteur. Et ces chaussures, qu'on appelle des chopines, sont portées beaucoup par les femmes vénitiennes. Donc, ça évite peut-être aux dames de trop abîmer leurs robes aussi en circulant dans les rues humide de Venise, de la Sérénissime. Et puis, il y a une autre explication. Ça permettait aussi aux hommes de surveiller leur épouse qui ne pouvait pas se déplacer trop loin avec ce genre de chaussures. Alors, c'est très très haut. On les appelle des pieds de vache. Donc, il faut imaginer comme une petite stèle, une partie renflée qui est en contact avec le sol, qui s'élève vers le sommet. Généralement, c'est du liège, c'est du bois, c'est quelque chose de très léger, souvent recouvert de cuir. Et puis, on a une petite mule dans laquelle il ne devait pas être très aisé en fait de mettre son pied. On a besoin d'aide de domestique. Voilà, on marche avec des cannes. Alors, on se moque des femmes, mais les hommes ne sont pas en reste. Les hommes, ils ont toujours aimé suivre la mode. Et puis, avant les réseaux sociaux, s'il y en avait un qui arrivait à imposer son image et à lancer des modes, c'était généralement le roi ou bien la reine pour les femmes. Et on a un roi dans l'histoire qui s'appelle Charles VIII, qui était polydactyle, c'est-à-dire qu'il est né avec une malformation des orteils. Il avait 6 orteils à ses pieds. Et donc, pour caser tous ses orteils, il se faisait fabriquer des chaussures à bout carré. Et nécessairement, les hommes ont emboîté le pas et ont suivi cette mode de la chaussure qu'on appelle à patte d'ours. Donc, il faut imaginer une chaussure plutôt forme, on va dire, ballerine, avec un bout carré qui peut être des fois très exagéré, parce qu'on sait que certaines de ces pattes d'ours pouvaient mesurer jusqu'à près de 30 cm de largeur. Alors, nous continuons notre découverte dans l'évolution de la chaussure. Nous voici arrivés au XVIIe siècle et on présente une très très belle collection de bottes de mousquetaires. C'est des bottes qui sont donc toutes en cuir, très imposantes, avec une première partie qui galbe vraiment la jambe. Et puis, il faut imaginer une partie en entonnoir qui est vraiment là pour protéger la cuisse. Parce que effectivement, quand on chevauche de longues heures, la botte doit remplir sa pleine mission de protection. Et ce qui est intéressant, c'est que cette botte, elle a donné l'expression « en avoir plein les bottes ». La chaussure a donné comme ça plein d'expressions qu'on utilise au quotidien. Et c'est assez logique, parce qu'on imagine bien que nos cavaliers, après avoir chevauché toute une journée et ce grand entonnoir comme ça, qui peut récupérer les eaux de pluie, les pailles, parfois les grenouilles, quand ils arrivent à terre, légitimement, ils peuvent en avoir plein les bottes.
Plein les bottes. Hein,
ouais, mais facile.
Elle a dit que je l'utilise, un point.
Moi, j'ai ciré les pompes.
Ouais, collé au basque.
Traîne sa vatte.
Le bruit des bottes.
Ouais.
J'en ai pas.
Traîner ses grolles.
Le silence des sabots. Des pantoufles. Des pantoufles.
Ouais, c'est compté. En avoir sous la semelle.
Avoir l'estomac dans les talons.
Non, ça fonctionne pas, c'est le pied.
Oh mince.
Être dans ses petits souliers.
Arriver avec ses gros sabots.
Ouais.
Tourner les talons.
Ouais, fonctionne.
Ah.
Être à la botte de quelqu'un.
Rester droit dans ses bottes.
Ouais. Il en reste plus beaucoup là. Sam Bott.
Lèche Bott.
Gustave Caillebott.
Non, ça n'a rien à voir, Louis.
Oh, mince.
Trouver une chaussure à son pied.
Yes, bien joué.
Botter en touche.
Ferdinand Chaussure.
Mais non, chaussure ratée.
Oh mince.
Avoir un caillou dans sa chaussure.
Avoir les deux pieds dans le même sabot.
Ah, j'y pensais.
T'as des bottes, mon pote. Elle me botte.
Mais non, mais ça, c'est pas une expression.
Ça m'est égal, vous m'enlevez pas, Renaud, c'est pas possible.
Mais attends, Luigi, c'est pas ça
des règles. Descendre, tiens, viens faire un tour. Oh, terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo.
Luigi, c'est pas les règles.
T'as des bottes à la base.
Envoyez le documentaire, là, je le connais sur Renaud.
Laisse béton.
Arrête, Luigi.
Au 19e, on revient au plat.
Sandrine Ruineau, responsable du service des publics au musée de la chaussure de Romans.
Plus de chaussures en fait à talons. C'est Napoléon qui va relancer en fait cette mode de la platitude. Donc on revient sur de la chaussure très plate. C'est la période aussi où on aime beaucoup danser. Donc on va inventer une autre forme de chaussure qu'on appelle la ballerine, qu'on va appeler aussi une chaussure éphémère, parce que cette chaussure, qui est vraiment extrêmement gracieuse mais très très fragile, généralement ne supportera pas plus que le temps d'un bal. Alors c'est souvent pas perdu pour tout le monde, hein. Les servantes s'empressent de les récupérer, c'est pas tant pour les porter, mais voilà, généralement elles les revendent, et c'est aussi comme ça des fois qu'on a pu récupérer des pièces qui, vendues à des antiquaires, ont pu être récupérées par certains musées. Et puis ces chaussures, elles sont toujours en tissu, puisque le cuir reste très cher, donc on va vraiment le réserver vraiment à un usage extérieur, notamment pour la fabrication de bottes, mis à part quand on est l'empereur, puisqu'on a présente dans nos vitrines une pantoufle portée par l'empereur Napoléon, et bien que ça soit une chaussure d'intérieur, et bien cette chaussure est en cuir.
Alors il faisait du combien Napoléon là?
Je sais pas, hein, c'est plutôt un petit pied, hein, je pense qu'on dépasse pas du 38-39. Hein.
Est-ce que vous avez les talonnettes de monsieur Sarkozy?
Non, mais peut-être, non, je sais pas, je crois pas que ça se fasse de lui demander. Bref, voilà, mais comme quoi, hein, ces petits éléments anecdotiques autour de la chaussure nous permettent aussi de nous raccrocher à la grande histoire. Donc pour terminer cette évolution de la chaussure, parce qu'après il va plus se passer grand chose en termes d'évolution du modèle, on est là devant une belle sélection de bottines plutôt portées à la fin du 19e. Et c'est intéressant parce que ces bottines, alors faut imaginer des bottines là aussi qui montent vraiment pratiquement sur le milieu de la jambe, qui sont très étroites, qui sont soit fermées avec des rubans, soit fermées avec des perles ou des boutons. Eh bien, ces chaussures, elles sont là aussi pour nous montrer l'évolution de la mode. Fin 18e, les théories hygiénistes commencent à un peu comme ça à transpirer. Donc, on va inciter les dames à relever leurs robes, hein, qui sont finalement des serpillères à miasmes et à virus. Donc là, les femmes, il est hors de question qu'elles montrent leurs chevilles. Ça, le pied, la cheville, toujours un élément, une partie du corps chez la femme qui est très érotisée en fait par l'homme. Et ça ne pose aucun problème de montrer ses épaules, de montrer la naissance de ses seins. Par contre, il est hors de question de montrer ses chevilles. Il y en a une qui a osé le faire, et pas des moindres. On en conserve en fait sa paire de chaussures. c'est la fameuse Castiglione, qui était une Italienne qui a été envoyée en France pour séduire Napoléon et qui s'est fait partie de ces fameuses mondaines. Ça a été vraiment une entremetteuse qui savait jouer de ses charmes et c'était une des premières à faire des photos de ses pieds et c'était quasiment des photos à l'époque considérées comme pornographiques.
Travaille chapeauté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mulants reptiles. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit, son prénom doit être Berthe Pointure 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. Asphyxié par une péniche, telle sera ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mulins reptiles. Je surveille le chaboté derrière mes lentilles. Au rayon des nouveautés, une longue fille. Elle regarde les savates et puis finalement elle me dit qu'elle convoite les mules en serpent. Elle me confie son pied nu comme à une sœur. Il est fin, petit, menu, bref, sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, enfin je l'allume. Je voudrais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Jamais eu au chaboté cette démangeaison, cette envie de bécoter en 15 ans de maison. Je repousse l'idée sotte, l'idée saugrenue, l'idée de proposer la botte à cet inconnu. Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à Cendrillon, la fille s'enfuit, me laissant désappointer, la mule à la main. Elle s'enfuit du chaboté, passe son chemin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Je me faufile dans la réserve, j'entrouvre la boîte. Tout le parfum que conserve la pantoufle droite me traverse les narines, dilate mon cœur, me réchauffe la poitrine comme une liqueur. Moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule, et même la chair de dindon quand j'éteins l'ampoule. Il me semble être avec elle, elle à mes côtés. Je rêve d'une vie nouvelle, loin du chaboté.
Ah, alors moi, aller dans des magasins de chaussures, mais franchement, je déteste, quoi. Non ? Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours l'impression qu'aucune paire me va, ça prend des plombes, et à la fin, en fait, j'en sors à moitié convaincu. Ça vous fait kiffer, vous, ça ?
Non. Non, non, moi, les magasins, pas de ouf, non. C'est juste, il y a certaines grolles, tu vois, j'aime bien. Genre les docks.
Ouais, mais attends, c'est quoi les docks, là, tout le monde autour de moi met des docks, mais c'est quoi le délire avec ces shoes ?
Ben, je sais pas, c'est que c'est des modèles qui sont trop beaux, quoi. Ouais. C'est trop belle. En tout cas, moi, je parle du modèle qui est classique, tu vois, celle que j'ai, là, la botte montante noire.
Ouais, avec le fameux cousu coup dur.
Ouais, exact. Ben, tu vois, je savais même pas que ça s'appelait comme ça avant l'émission. Hein. Ouais. Les Doc Martens, tu vois, tu les reconnais avec le coussin d'air dessous et l'étiquette jaune au talon. Ben, moi, c'est les premières pompes que j'ai voulu avoir à 11 ans. Ça coûtait une blinde, hein. C'était plus de 500 francs, je crois. Et j'avais économisé pour ça. Et aussi, je voulais un jean Levi's. Et là, enfin, je me sentais prête à rentrer dans l'adolescence.
Ah ouais. C'était hyper connoté, ces pompes. Hein.
Ouais, moi, ça renvoie à un truc un peu punk, canard, oui. Militant.
Ouais,
ça,
ouais, mais tu vois, ce qui est marrant, évidemment, c'est qu'à l'origine, c'est des chaussures inventées par un médecin, Klaus Martens.
La Wehrmacht, peut-être.
Ouais,
c'est
crois.
Vrai.
Ouais, je crois aussi, ouais. Et ce Klaus Martens, il était tombé en ski. Et il avait créé des chaussures orthopédiques pour tenir son pied. Puis le modèle a été racheté par les Anglais. Et c'est devenu les chaussures techniques des facteurs et des policiers. Les policiers,
ouais,
de la reine, ouais.
Et alors après, haut de bail, fin des années 60, c'est aussi des chaussures que les skinheads portent dans les quartiers ouvriers et les centres-villes du Royaume-Uni.
Et ensuite, c'est la déflagration punk au milieu des années 70, très documentée. On connaît les Clash, les Sex Pistols. Voilà. Et donc, la jeunesse punk et rock porte des docks. Et puis, ensuite, il y a les anards de la CNT. Et même aujourd'hui, c'est devenu chic, j'ai l'impression.
Oui, carrément, hipster. La doc, elle est vraiment partout, quoi.
En fait, vous êtes vachement calés tous les deux sur le sujet.
Mais moi, j'adore.
Ouais.
Ouais.
Toi, Luigi, c'est quoi ta cam en chaussures?
Moi, je trouve que ce qui est important dans les chaussures, c'est de bien les aimer quand tu les vois de haut.
Ah oui.
Et dans les godasses élégantes à regarder de haut, il y a les gazelles, les samba, on parlait tout à l'heure. Elles sont grave belles, ces modèles-là, vues d'en haut.
Ah ouais, de haut. Ouais.
Ce que j'aime bien aussi comme pompe, j'avoue, c'est les chaussures plateforme. Vous voyez?
Ouais.
Les pompes là qui sont avec les méga semelles compensées.
Non mais t'aimes ça?
Bah oui.
Mais c'est confortable?
Bah ouais, ça va, ouais.
Ah bon?
Ah ouais, moi j'aurais pas dit, enfin...
Oh, tu te traînes un peu, quoi, mais non, franchement.
Ouais, non, moi, plutôt mon dada, c'est glisser mes pieds dans des tatanes, quoi. Ça donne chaud, et en même temps, ils peuvent respirer, puis tu peux les mettre avec des...
Vous me demandez pas ce que je mets, moi, comme chaussures. Moi, j'ai préparé un truc, en plus.
Bah ouais, pardon, Marguerite, désolé. Oh.
Désolé.
Alors, c'est quoi tes chaussures préf à toi, Marguerite?
Moi, mes chaussures préférées au printemps, c'est les baskets. On peut courir, marcher, grimper à l'escalade ou à d'autres endroits. Mais on ne peut pas faire de randonnée parce que ça ne tient pas les chevilles. En été, mes chaussures préférées, c'est les sandales Teva. On peut courir, marcher, mais on ne peut pas faire de randonnée. Enfin, on peut en faire, mais après, ça pue. À l'automne, c'est les bottes car il pleut beaucoup. Et grâce à mes bottes, j'ai les pieds bien au sec. Et en hiver, c'est les chaussons. Je préfère rester bien au chaud chez moi.
Actuellement, mes chaussures, c'est des chaussures, des mocassins d'été, très confortables et en cuir, bien sûr, en cuir de veau français. Je suis négociant grossiste en cuirs et peaux qui se trouve à Bourg-de-Péage, ça s'appelle Curtex, et on vend tout ce qui est le cuir pour faire la chaussure ou la maroquinerie. Du veau, de la vachette, il y a de l'agneau, cuir de chèvre. Au niveau de tannage, nous avons différentes, tannage minéral, tannage végétal. Et nous avons 3000 m² de superficie de vente de cuir, ce qui est quand même très important.
Combien de salariés?
Nous avons 7 salariés.
Et vous, vos clients, c'est qui en fait? Vous vendez à qui?
Essentiellement à des professionnels qui transforment en fait nos cuirs en maroquinerie ou chaussures. Que ce soit en France, à des artisans, des petites entreprises ou des marques haut de gamme. Sinon, également beaucoup à l'étranger, car les cuirs français sont très demandés. Et en particulier au Moyen-Orient, aux États-Unis et surtout en Asie. En Asie, nous avons le Japon, la Chine, la Corée du Sud, etc.
Les tanneries romanaises, ça existe, ça, y en a?
Oui, il ne reste qu'une tannerie à Romans, qui est la tannerie Rouffon, et qui sont spécialisés dans le veau, et qui appartient à une maison de luxe française.
Laquelle?
Louis Vuitton, LVMH. On voit que la maroquinerie a remplacé essentiellement la chaussure. La maroquinerie, c'est tout ce qui représente en fait la fabrication de sacs à main, les ceintures, la petite maroquinerie, portefeuille, sacoche, c'est ce secteur. Il y a plusieurs maisons de luxe qui sont installées, notamment Hermès, des sous-traitants d'Hermès. Il y a Louis Vuitton, il y a Chanel. Ces grandes maisons sont très présentes et ça doit faire à peu près entre 2500 à 3000 personnes qui travaillent dans ce secteur, ce qui est imposant.
À Romans?
À Romans et en périphérie de Romans.
Alors attention, je vais mettre en route la machine, vous allez voir que ça va faire du bruit. Hein. Encore une fois, compresseur, pneumatique.
Cécile Rambeau, chargée de développement touristique de la Cité de la Chaussure à Romans.
C'est parti. Alors, vous voyez, quand la tige arrive, eh bien, on lui a mis son contrefort et son bout dur. Ça, c'est super rigide. Tu vois, si tu touches, hein, c'est vraiment dur. Il va falloir l'assouplir. Donc, on va la passer dans un four, une étuve en fait. Hein. Elle est à 126 degrés, vous voyez. Et elle a en plus un filet d'eau, ce qui fait que ça va faire une vapeur humide qui va assouplir ce cuir. Je suis Cécile Rambaud, je suis chargée de développement touristique de la cité. Je fais partie du groupe Archer. On va prendre la tige, je vais regarder si elle est assez souple. Ouais, elle est assez souple. On a pré-encollé ici et ici à la néoprène. Et vous voyez, quand on appuie, le cuir va être tenu au bout. Et puis, quand on appuie une deuxième fois, en fait, ça va venir tirer le cuir très fort. Vous voyez, en fait, on relâche, on appuie sur la double commande et ça va pousser le cuir à l'intérieur pour venir le coller comme ça. J'arrête la machine. Et puis, on utilise cette troisième machine qui s'appelle une emboîteuse. Alors, cette emboîteuse, elle va faire le travail de la machine à monter les bouts, sauf qu'elle ne colle pas, elle cloue. Le bloc supérieur qui est en métal, en fait, il s'est mis complètement à l'aplomb. Il a poussé le contrefort et le cuir à l'intérieur. Et puis, il va injecter 22 petits clous. Ici, vous avez 22 injecteurs, 22 tuyaux. Et par là, eh bien, on fait rentrer ces petits clous.
Moi-même, j'ai travaillé dedans à la Cité de la Chaussure. Je dirais que c'est classique, quoi. Il ne faut pas s'attendre non plus à des milliers de cents.
Payé au SMIC.
Voilà, c'est ça. On était payé au SMIC, oui. Par contre, oui, j'ai apprécié à travailler là-bas. Et puis, ça m'a permis de vraiment savoir comment fabriquer la chaussure. L'être humain est vraiment important dans la fabrication de la chaussure. L'usine, les machines ne peuvent pas faire ce que l'être humain voit, ce que l'être humain fait. Moi, j'ai arrêté, c'était... J'avais atteint, je pense, mes limites de ce que je pouvais recevoir de cet atelier. Donc, j'ai voulu voir ailleurs. Et je suis très contente.
Vous bossez encore dans la chaussure ?
Ouais. Oui, je travaille dans la chaussure, mais je ne suis plus derrière en train de la fabriquer. Maintenant, je suis plutôt devant. Alors, pas en train de la vendre non plus, parce que je suis partie dans de la chaussure médicale. Et donc, du coup, c'est complètement différent. Mais je suis bien contente. C'est de la chaussure orthopédique, en fait. C'est de la chaussure qui est fabriquée sur mesure. Donc ça n'a rien à voir, encore une fois, parce que autant la chaussure de série, ben, on la fait de série. C'est pas une forme spéciale, c'est une forme pour tout le monde. Que là, la chaussure médicale, la chaussure orthopédique, c'est une chaussure par patient. Donc c'est une forme par patient. Et c'est complètement différent de la chaussure classique.
Et vous bossez à Romans ?
Oui, toujours.
Ok, et donc il y a une entreprise qui s'est spécialisée à Deux, hein ?
Oui, mais ça fait bien des années maintenant. Une vingtaine de petites mains derrière, justement, qui s'affairent à pouvoir chausser nos Romanais comme les alentours, parce qu'il n'y a pas que des Romanais, qui justement ont besoin de chaussures orthopédiques, et de plus en plus, malheureusement.
Alors, on a vu la coupe, le piquage, le montage, et maintenant on arrive à la dernière étape qui s'appelle le bichonnage. En fait, c'est encore quand même pas mal d'étapes. Il y a la finition aussi, hein, qui est comprise dedans. Mais ça va être le moment où on va mettre la dernière semelle. Cette dernière semelle, elle s'appelle la première de propreté. Et tout ça, c'est encore vraiment un travail d'une minutie extrême. On va mettre les lacets, on va faire les derniers contrôles qualité. Et puis c'est à cette étape-là que définitivement on validera la chaussure. Ça va être mis après en boîte, en carton, et puis ça partira sur les différents lieux où ça doit aller.
Alors t'en dis quoi ?
Bah je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je prenne la taille en dessous là. Je sais pas, là je trouve que ça me fait des trop grands pieds.
Non mais t'es bien dedans.
Bah ouais, grave.
Bon, alors tu prends celle-là.
Bah ouais, elles te vont bien, franchement. T'en penses quoi, toi, Marguerite ?
Super classe !
Bah ouais, tu vois.
Ouais, mais je sais pas, tu vois, j'hésite, ouais.
Non, mais attends, ta gueule, là, faut se décider parce que c'est quand même la fin de l'émission, il va falloir déchausser un moment.
Ok, allez, vas-y, je les prends.
Ah, yes.
Ah, bah enfin !
Alors ce soir, on a mis les petits souliers dans les grands pour vous parler chaussures.
Merci aux Romanaises, notamment à Cécile Rambeau et Sandrine Ruineau.
Et un bisou à ma mamie.
Et on a écouté If I Wear a Sneaker de Die Goldenen Zitronen.
Le chat beauté de Thomas Persen.
Et là, on écoute Fango. Bonne fin de journée sur les ondes de Radio Canu.